Les podcasts de Bien en Périgord. Suzanne Boireau-Tartara, mars 2022. Dans le bourg de Cubjac, dans la vallée de l'Auvézère, une rencontre avec Mathieu Meïza qui vient de créer une activité de recrutement et de ressources humaines basée en Dordogne avec un rayonnement régional. Il s'est réformé d'abord lui-même avant d'engager cette reconversion et se placer au service de ceux qui sont en quête d'un nouvel emploi, d'une reconversion et des chefs d'entreprise qui recherchent de nouveaux collaborateurs.
Suite à une licence pro en conseil emploi, formation et insertion, on m'a proposé un mi-temps sur de l'accompagnement et sur le volet entreprise, de l'accompagnement à l'emploi, à la recherche de la prospection d'entreprise, ce genre de choses. J'étais pas nécessairement attiré par ça et en fait, il s'est trouvé que ça a été vraiment, vraiment très positif pour moi et j'ai commencé à découvrir et rencontrer des entrepreneurs et je suis un peu tombé amoureux de ça, quoi, de la rencontre d'employeurs et surtout de personnes qui ont un amour de leur métier et de leur entreprise. C'est un aspect qui est encore aujourd'hui très important pour moi. Je trouve ça très très gratifiant et intéressant de rencontrer des passionnés, quoi. Mon parcours de vie après m'a amené à revenir en Dordogne parce que avec ma femme on avait envie de revenir et j'ai eu une opportunité d'intégrer la mission locale du Grand Périgueux, un poste plutôt sur l'emploi, et au fur et à mesure de mes années de mission locale, je suis passé par un poste de chargé de projet, de coordinateur de service. On avait amélioré l'offre de service avec les entreprises et là mon temps de travail était plus dans les entreprises que derrière mon bureau et c'était très bien. Prise de contact, connaissance des métiers, accompagnement des salariés sur leurs besoins de formation, tout un travail sur le recrutement, sur la définition d'une fiche de poste, de définir aussi parfois des plans de communication des offres. Un volet recrutement très important sur lequel je me suis éclaté et passionné. Parce que là aujourd'hui, si je crée mon entreprise, c'est aussi parce que il y en a qui ont d'autres passions dans la vie, mais moi le recrutement me passionne parce que c'est mouvant et c'est toujours en train de bouger, les codes évoluent et je trouve ça très intéressant. J'ai eu besoin de faire un point et j'étais parti sur l'idée de faire une reprise d'études. Je suis parti sur un master en droit social. Découverte et challenge à la fois parce que j'avais jamais fait de droit, mais au fur et à mesure de tout ce temps passé auprès des entreprises, j'avais acquis la nécessité ou le besoin de comprendre l'organisation juridique et sociale d'une entreprise. Et il s'est trouvé qu'en plus, l'année où j'ai passé mon master, c'était la réforme liée au CSE, donc les représentations à l'intérieur de l'entreprise, et la réforme de la formation professionnelle, avec l'avènement du CPF. À la sortie de ce master, je me suis dit, ben en fait, oui, c'est vraiment cet aspect-là. Il y a le recrutement qui me plaît, mais il y a aussi les ressources humaines. J'ai passé pas mal de temps avec des gestionnaires de ressources humaines, des chargés de recrutement d'entreprise, et ce regard externe que j'avais me donnait envie d'aller vers ces métiers et vers cet environnement-là. J'ai profité du dispositif d'émission reconversion qu'avait mis en place le gouvernement, et j'ai pu donc démissionner de mon poste à la mission locale et poursuivre mes études tout en percevant mes indemnités chômage. Je suis parti sur un master RH à l'IAE de Bordeaux. Je me suis totalement épanoui dans ces études-là. En fait, j'ai réussi à mettre des mots et à contextualiser des choses que je pratiquais sans mettre réellement des mots derrière tout ça. Et donc là, j'ai vu des concepts autour de la marque employeur, autour des concepts actuels et qui ont vraiment... L'intérêt de cette formation-là, c'est que c'était vraiment des concepts qui répondaient à des besoins immédiat et actuel. On a souvent l'impression que les concepts sont un peu déconnectés de la réalité. Là, pour le coup, pas du tout. Quand on parle de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, quand on parle de valorisation des besoins d'entreprise en matière de recrutement, quand on parle de qualité de vie au travail, quand on parle de RSE, on est sur des sujets d'actualité autant sur de l'emploi que de l'environnement que des mouvements sociétaux. Donc là, vraiment, une formation qui collait aux besoins du terrain. Pendant cette formation, j'ai fait un stage aussi à Innovelec, à Boulazac. Là, j'ai pu mettre à profit tout ce que je connaissais en matière de recrutement et aussi développer un peu, notamment sur le concept de marque employeur, en faisant un audit de l'image interne et de l'image externe. Et j'en suis ressorti avec une conviction, c'est que tout ça, au-delà du fait que ça avait confirmé mon intérêt, me plaisait vraiment, et où je m'épanouissais, je pouvais mettre en pratique mes idées, ma vision, puisque du coup, avec 10 ans de recul professionnel et toutes ces qualifications, j'avais acquis en fait des convictions et une vision du recrutement et des ressources humaines. Entre-temps, je suis parti au Pays Basque, parce que le poste de gestionnaire de ressources humaines était quand même un poste qui m'interrogeait, qui m'interpellait. Donc j'ai eu une opportunité au Pays Basque. Ça a duré un mois, en fait, et je me suis rendu compte que un poste fixe, peut-être administratif, de la fonction RH, n'était pas fait pour moi. Moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment le recrutement et la stratégie RH. Donc, quand je suis rentré dans ma petite C3 du Pays Basque, j'ai réfléchi et les 2h30 de trajet ont été mis à profit, puisque quand je suis arrivé, j'ai pris une feuille et j'ai fait naître MMRH, quoi, en fait. Tout était là devant moi et il n'y avait plus qu'à. J'ai commencé à en parler autour de moi, et ce qui pour moi n'était pas forcément une évidence de créer mon entreprise, d'être mon propre employeur, l'était pour beaucoup de monde autour de moi. J'ai commencé à réfléchir, à contextualiser, à mettre mon projet sur le papier. Je l'ai montré à différents employeurs, j'ai interrogé des personnes pour voir si ce que je voulais faire était cohérent, et les retours étaient plutôt positifs.
Mathieu n'est plus fait pour le salariat, MMRH est né, il va se mettre à disposition des employeurs et des salariés.
À partir de janvier, je suis passé à une phase matérielle, en fait, de mon projet. J'ai rencontré un comptable, j'ai rencontré ma banque, j'ai défini ce que je voulais faire en termes de communication. Et là, j'en arrive à un point aujourd'hui où je suis opérationnel. C'est-à-dire que j'ai des contrats, mon site internet, on est en train de finaliser tout ce qui va être charte graphique, logo, tout ça, parce que la partie digitale revêt un intérêt très important pour moi, comme pour tout le monde dans le recrutement. Donc je pars du principe que moi, si je vais dans des entreprises en expliquant qu'ils soient sur le digital, il faut que moi j'ai des outils performants sur cette partie-là aussi. J'accorde beaucoup d'importance à la crédibilité et la cohérence dans ma fonction, dans ma vision du travail et dans la fonction que je veux, la manière dont je veux fonctionner avec mes potentiels clients et collaborateurs. De la conception, de l'imagination à la réalisation, et donc c'est à la fois flippant et à la fois très enthousiasmant. J'ai toujours admiré les employeurs, les patrons des entreprises, parce que j'ai toujours trouvé que c'était une charge, quoi. On fait vivre quand même des personnes, on a une pression économique, et puis on peut en parler actuellement avec la crise sanitaire, il y a quand même des choses qui vous tombent sur le nez, auxquelles vous y attendez pas, il faut y faire face, quoi. C'était pas forcément mon idée de concevoir une entreprise, quoi que ce soit, mais j'en suis arrivé à un point où aujourd'hui, j'ai envie de développer ma vision. C'est d'arriver dans une entreprise et de proposer mes services et mes solutions, tout ce que j'ai acquis d'expérience et de compétences. J'ai envie d'aller dans des entreprises et de proposer mes solutions.
Des solutions? Mais quelles solutions?
Ma conception aujourd'hui, c'est un ensemble de tout ce que j'ai pu voir et repérer. Et il y a autant des besoins que j'ai pu repérer que des solutions que j'ai vu ailleurs. Part du principe que de toute façon, il n'y a pas une solution, mais des solutions, et qu'en plus, sur du recrutement et dans une entreprise, il faut qu'elle soit personnalisée. Vous ne pouvez pas standardiser un service quand chaque entreprise a un besoin bien particulier. Si vous arrivez dans une entreprise avec un catalogue standard où il n'y a plus qu'à cocher, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des entreprises qui sont structurées par rapport à leur recrutement, qui ont peut-être juste des besoins ponctuels. Il y en a qui, pour qui ce n'est pas une priorité, mais que ça le devient. Il y en a qui envisagent aussi le capital humain dans leur entreprise d'une certaine manière, d'autres d'une autre. L'idée, c'est de les accompagner pour répondre à leurs besoins immédiats et futurs. Et c'est ça. Et sur la partie recrutement, pour moi, il y a deux sujets essentiels. Il y a l'attractivité. Comment je fais percevoir au futur candidat le poste que je veux proposer? Comment je peux l'attirer dans mon entreprise par mes valeurs, mon identité? La notion de fidélisation. Parce que recruter pour recruter et recruter et recruter, c'est un échec. Il y a le processus de recrutement, mais il y a la manière dont on accueille, dont on suit, dont on accompagne ses salariés tout au long de leur carrière professionnelle.
J'ai fait pas mal de visites entreprises avec des jeunes. On avait visité Leroy Merlin. Leroy Merlin, ils ont stratégie d'accompagnement et de bien-être des entreprises. Ils ont des espaces de détente. sincèrement, c'est à montrer dans toutes les écoles de RH, quoi.
Ça fait partie des solutions.
Une belle salle de poste, ça montre d'une part qu'on respecte un peu ses salariés, qu'on fait attention à eux, et c'est un espace où ils peuvent se détendre et se remobiliser. Et ça, c'est hyper important. Moi, je comprends toujours pas qu'on fasse pas des séances de sport en entreprise, de bien-être. Plutôt que de proposer une bourriche à la fin de l'année, pourquoi pas proposer une séance de détente à ses salariés? C'est le type de service vers lequel je veux aller aussi.
Le recrutement et même les ressources humaines, c'est des histoires de cercles. Il y a deux cercles. Il y a un cercle vertueux où, en fait, dans une entreprise, le climat social fonctionne bien, les leviers motivationnels fonctionnent bien. Le management, les conditions de travail, le climat social, les possibilités d'évolution de carrière, ce genre de choses. Et naturellement, ça attire les personnes. Donc, le recrutement se fait par ce biais-là. Et puis, vous avez un cercle un peu plus vicieux. C'est-à-dire que si vous avez un environnement qui n'est pas favorable à l'investissement de vos salariés, à la motivation de vos salariés, vous aurez du mal à recruter. Votre recrutement, il sera plus adapté forcément à vos besoins. Si on gère, si on maîtrise l'environnement RH de l'entreprise, et ça englobe la formation, la qualité managériale, ça englobe la gestion de carrière, ça englobe les possibilités d'évolution interne, qu'est-ce qu'on propose à nos salariés. Eh bien, tout ça fait qu'à un moment donné, une personne, quand elle rentre dans l'entreprise, elle s'intègre facilement, elle se projette. Et aujourd'hui, les personnes ont besoin de se projeter dans les entreprises. Alors après, il y a tout type de salariés. Il y a des salariés pour qui l'emploi est juste une fonction alimentaire, c'est-à-dire que on vient chercher un salaire, on fait notre boulot, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a des salariés pour qui la carrière professionnelle est quelque chose de motivationnel et de prioritaire. Vous avez aujourd'hui des salariés qui font de leur équilibre vie pro-vie perso une priorité. Il faut qu'en fait l'entreprise puisse s'adapter à toutes ces formes de collaborateurs. Quand vous recrutez une personne, c'est que derrière, vous avez une idée de développement ou d'amélioration de votre entreprise. Et donc, vous devez passer aussi par le développement et l'amélioration de vos relations avec vos collaborateurs.
Le recrutement, c'est aussi tout un cheminement, un accompagnement.
Moi, le recrutement ne s'arrête pas à la signature du contrat. Il y a une première phase qui s'appelle l'intégration, qui est pour moi stratégiquement très importante, parce que ça définit un peu comment la relation de travail va se passer, autant pour l'employeur que pour le salarié. Et le prolongement naturel, c'est de les accompagner à faire en sorte que cette collaboration fonctionne. On sait qu'aujourd'hui, un recrutement sur deux à peu près, la durée de vie d'une relation professionnelle, c'est 1 an et demi. Il y a aussi un chiffre, c'est à peu près 20% des Français qui sont dans l'idée de faire leur carrière dans leur entreprise. Il faut s'adapter à cette réalité du moment. Ça veut dire qu'un salarié sur 5, il va potentiellement faire sa carrière chez vous. Ça veut dire que 4 salariés sur 5, peut-être qu'il va falloir aller les chercher. Et que s'il démissionne dans un an et demi, autant optimiser le temps qu'on l'a. Voilà. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais je pense que si on réfléchit pas quand même à l'environnement qu'on met autour de tout ça, on crée de la perte. Vous savez, en recrutement, on peut pas quantifier combien on gagne d'argent, mais je peux vous dire très rapidement combien vous allez en perdre. Un mauvais recrutement, aujourd'hui, ça coûte cher à l'entreprise, ça peut coûter cher en termes de climat social, ça coûte cher en termes d'image, ça peut coûter cher à tous les niveaux. Donc, autant investir dans ce process et dans ce que vous disiez, l'après, pour faire en sorte que vous n'ayez pas tout le temps des besoins de recrutement. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui limitent leur production parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. Voilà, il y a des choses peut-être à réfléchir au-delà du recrutement, à l'interne de l'entreprise, et d'envisager une vraie stratégie RH. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont une stratégie opérationnelle par rapport à leur activité, industrielle, de production, commerciale, de services clients, en fonction de leur activité. Et la stratégie RH arrive toujours en second plan. Moi, je pense qu'il y a la nécessité de la mettre au premier plan, de la définir par une politique de ressources humaines internes qui soit en cohérence avec les valeurs de l'entreprise et les objectifs qu'on peut se fixer par rapport au capital humain. Justement, aujourd'hui, il a des codes. Il est clair que le digital a transformé fondamentalement... il a fait évoluer les codes. Si vous voulez, avant, on partait du principe que 80% des offres d'emploi, c'était du bouche-à-oreille. Ce bouche à oreille, il s'est déplacé sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et ce qui est la force des réseaux sociaux, c'est que voilà, quand vous diffusez une offre sur un réseau social, vous avez la puissance de diffusion qui fait que votre besoin est disponible pour tous. Oui, il est disponible pour tous. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, aujourd'hui, ce que recherche par exemple une génération comme la mienne, c'est de connaître l'entreprise. Et s'il y a juste une offre d'emploi classique, copier-coller d'une fiche de poste de n'importe quel autre site, il n'y a rien d'attractif là-dedans. Vous serez en fait dans le flou des offres d'emploi qui sont véhiculées sur Internet. Vous en avez, mais des tonnes et des tonnes. Aujourd'hui, ce qui va faire la différence, c'est qu'il faut se différencier. Il faut valoriser son entreprise. Il faut mettre en avant ce qu'on va faire dans l'entreprise. En fait, ce que recherche un candidat aujourd'hui, c'est de vivre une expérience de candidat. Du moment où il va lire votre offre jusqu'au moment où il va signer votre contrat, il veut être accompagné. D'accord? Et les entreprises aujourd'hui qui ne font pas ça, eh ben elles se coupent de beaucoup de candidats, de potentielles candidatures. Donc oui, il y a les réseaux sociaux, il y a les sites internet. Néanmoins, si c'est mal renseigné et si ça ne parle pas à la personne, ça n'a pas d'intérêt. C'est en fait comme une publicité, hein, tout simplement, hein. Les publicités, vous en voyez tous les jours. Mais il y en a qui vous interpellent plus que d'autres. Eh bien, en matière de recrutement, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller personnaliser votre offre d'emploi, votre besoin, pour que le candidat, quand il postule, il sache où lui mettre les pieds.
Le recrutement, c'est aussi une question de crédibilité, de juste image de son entreprise.
Ne survendez pas votre entreprise. Ne survendez pas les potentialités que vous soyez. Sincère. Et ça vaut autant pour le candidat que pour l'entreprise, en fait. Parce que de toute façon, à un moment donné de votre relation, les choses, la période d'intégration, on en parlait tout à l'heure, ça se voit et ça se sent. Donc, autant être sincère dès le départ, dire, voilà, nous, notre environnement, il est comme ça. Moi, j'ai connu des entreprises qui étaient très claires là-dessus en disant, voilà, on a abandonné un peu la partie RH, la partie recrutement, on s'est rendu compte, mea culpa, et maintenant, on part dans une nouvelle dynamique. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a une évolution de la conception du capital social, du capital humain dans l'entreprise. Ils se sont bien rendus compte, notamment là avec les difficultés de recrutement, qu'il y avait nécessité de revoir les choses et d'accompagner peut-être un peu mieux leurs salariés et de prendre en considération certaines attentes pour justement les attirer dans leurs entreprises et qu'ils fournissent un investissement attendu. Donc j'ai envie de dire que on avait tendance à dire avant que c'était aux salariés aux candidats de se vendre auprès des entreprises, et on a l'impression aujourd'hui que c'est plutôt aux entreprises de se vendre auprès des candidats. Il y a un rapprochement en fait dans la relation où chacun doit prendre en considération les attentes des autres. Moi, j'ai accompagné des jeunes pendant 10 ans. Et si j'ai acquis une conviction, c'est que il n'y avait pas de génération. Faut pas standardiser en fait une population en fonction de certains critères. Oui, il y a des tendances. Aujourd'hui, vous avez autant des seniors qui ont envie de travailler sur le digital que des jeunes. Vous avez autant des jeunes qui ont des valeurs éthiques qu'une personne de 45, 50, 60 ans. Vous avez aujourd'hui des jeunes parents qui privilégient l'équilibre vie pro, vie perso. Mais ça peut être très bien à 45, 50 ans. Donc, si vous voulez, en fait, il y a aujourd'hui, je parlerai pas de génération, je parlerai de tendance au travail. Voilà, il y a des personnes. Aujourd'hui, dans les outils motivationnels, il y en a plusieurs, et il y en a qui arrivent sur le marché là. Bon, la rémunération reste toujours le levier motivationnel, quelle que soit la génération, quelles que soient les époques. Mais par contre, on voit que c'est un levier dont le pourcentage diminue. Fondamentalement, aujourd'hui, on est à moins d'un Français sur deux pour qui c'est la rémunération. Il y en a trois ou quatre qui arrivent derrière et qui montent en force et qui sont en train de prendre le relais. Et ça explique aussi la mutation un peu de la vision du travail par les différentes générations. C'est ce que je vous disais, le rapport, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'est le deuxième levier motivationnel aujourd'hui. Le troisième, c'est la qualité managériale. On cherche, quand on arrive dans une entreprise, une personne qui soit en capacité de nous accompagner, de nous motiver, de nous faire progresser. Et à l'inverse, quand vous arrivez dans une entreprise où il y a un manager qui ne correspond pas trop à vos attentes, trois cas sur quatre, la relation de travail se termine. Donc c'est autant motivationnel que démotivationnel. Et l'ambiance de travail, très important pour les salariés, l'ambiance de travail. Une ambiance de travail positive, eh ben c'est toujours plus sympa d'aller au travail et de se dire qu'on va dans un environnement qui est agréable, positif, motivant. À l'inverse, si vous êtes dans un environnement de travail pesant, eh ben vous revenez à toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui en termes de qualité de vie au travail, des burn-out, des dépressions, ce genre de choses. Donc c'est autant motivationnel que démotivationnel. Mais ces trois aspects-là grimpent continuellement. Donc, il y a une notion de bien-être en entreprise qui prend un essor considérable. Et aujourd'hui, les entreprises le prennent en considération et devront le prendre en considération. Donc là aussi, mon travail, c'est de les amener à réfléchir dans leur entreprise, quel outil motivationnel on va pouvoir mettre en place, adapté à leur environnement. Tout le monde ne peut pas avoir 25 managers hyper compétents, hyper qualifiés. Peut-être qu'il faudrait les accompagner sur le temps, les coacher pour les amener justement à travailler sur, à aller vers ce travail de valorisation et puis aussi les écouter, parce qu'un manager aujourd'hui, il gère plein de choses. C'est des postes ultra où il y a de la tension, et des fois d'avoir une personne externe qui vient ne serait-ce qu'écouter ces personnes-là, ça peut être intéressant. Dans une entreprise, améliorer par exemple sa salle de pause, créer des espaces de détente, c'est plus déconnant. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui le pensent. Il y a 10 ans, on vous disait non mais nous, la salle de pause, ils prennent leur café et puis surtout ils viennent travailler. Aujourd'hui, ils se rendent bien compte que pour qu'ils soient investis, qu'ils soient totalement opérationnels, il leur faut des temps de repos et des temps où ils peuvent se ressourcer, se retrouver pour aller vers du travail.
La crise sanitaire, le confinement, le télétravail sont venus bousculer l'ordre établi.
Télétravail, moi je l'ai vécu en fait à la fin de mon expérience de la mission locale. On en parlait mais on l'avait jamais vu quoi. Il y a beaucoup d'entreprises, ça commençait à arriver hein, dans les pratiques. Bon, il y a déjà des grosses entreprises qui l'avaient mis en place. C'est une très bonne solution, mais ça a été mis en pratique pas dans les meilleures conditions. Il fallait faire vite. C'est devenu pour certaines contraintes. Et puis pour d'autres, comme moi, qui avaient l'envie de le pratiquer, je l'ai mal vécu. Parce qu'en fait, le problème du télétravail, c'est que c'est bien quand vous n'avez pas vos enfants à la maison, par exemple. Aujourd'hui, du télétravail, vos enfants vont à l'école, vous avez vos temps, voilà, comme un salarié de lambda. Aujourd'hui, 2 ans après, c'est une pratique qui va être intégrée durablement dans les entreprises, et c'est très bien. Je pense que là où ça peut être très bien mis en place, c'est en fait sur des modèles hybrides. C'est-à-dire que d'une part, il faut laisser le choix. Deuxièmement, il y a des métiers pour lesquels vous ne pourrez pas le mettre en place. Et troisièmement, il faut que ça soit mis en place dans un cadre qui soit bien, bien clair. Moi, je trouve très bien l'idée de se dire, à un moment donné, on peut passer 1, 2, 3 jours sur du télétravail et revenir dans l'entreprise. Le modèle hybride, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a le choix, mais en même temps, on navigue entre les différentes manières de pouvoir travailler. Vous avez des personnes pour qui, justement, le climat social ou le fait de travailler en équipe est plus un poids. Donc là, vous avez des personnes qui se sont révélées en télétravail, des personnes qu'on dit autonomes, ont pu vraiment se mettre en autonomie et se focaliser sur le travail. Donc pour eux, c'est très positif. Des personnes qui ont envie un peu, justement, d'avoir, on parlait tout à l'heure d'équilibre vie pro, vie perso, le télétravail a cette qualité que, une fois que vous fermez votre ordinateur, vous pouvez tout de suite vous concentrer sur votre vie personnelle, familiale. Vous n'avez plus le réseau des transports à gérer, ce genre de choses. Pour les entreprises aussi, c'est très positif, parce que ça permet de proposer des solutions RH à certains pour justement les remotiver ou développer certaines compétences. Moi, je lisais des études aussi, il y a certaines entreprises qui réfléchissent à réduire leur surface immobilière, parce qu'il va y avoir un mouvement en fait de télétravail où les personnes ne seront pas tout le temps dans les locaux. Donc ça peut être intéressant. Et sincèrement, au niveau écologique, on n'en parle pas, mais moins de transport, pour les familles, des économies. Parce que moi, là, avec la crise ukrainienne, on voit le prix de l'essence, par exemple, qui ne fait cesse d'augmenter. Le télétravail peut être une solution, là encore, pour le budget des familles. Il faut qu'il y ait des échanges entre salariés et entreprises. Moi, j'ai des salariés qui m'ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas faire de télétravail parce que, justement, la relation sociale qu'ils avaient dans leur entreprise était primordiale. Et qu'en se retrouvant en télétravail, ils se sentaient isolés. Il y en a d'autres, au contraire, qui m'ont dit, moi, ça me permet de me concentrer, j'ai plus un bruit autour de moi et je peux me focaliser sur ce que j'ai à faire. Clairement, c'est une pratique professionnelle qui va s'installer durablement. Dernièrement, une entreprise qui cherchait un comptable sur un 20 heures. Ils ont du mal à recruter. Alors, ils ont du mal à recruter, ok. Mais sur quoi, quel levier autre que la rémunération peut agir? Eh bien, justement, sur la flexibilité du temps de travail et sur le télétravail. La personne, sur un 20 heures, elle va avoir des dépenses qui vont peut-être la limiter dans son champ d'action géographique. En mettant en place une journée ou deux de télétravail, il y a des choses à mettre en place. Et en fait, il n'y a pas de solution toute faite. C'est ça qu'il faut comprendre en recrutement. J'ai du mal à comprendre comment on peut avoir de la standardisation du recrutement. Voilà. Chaque entreprise, quand vous êtes employé libre-service à Leclerc, c'est pas le même métier qu'employé libre-service dans un petit spar de campagne. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faut personnaliser et être au plus près du besoin. Quand on met une compétence, voilà, derrière, et c'est souvent la même chose. Mais à un moment donné, si vous ne connaissez pas l'entreprise, si vous ne connaissez pas l'environnement, moi, je ne comprends pas qu'on puisse diffuser des offres d'emploi sans avoir mis le pied dans l'entreprise, sans avoir rencontré les salariés. Aujourd'hui, quand je parle du coût humain, moi, quand je conçois une offre d'emploi, je veux avoir la vision du dirigeant, mais je veux avoir aussi la vision du collaborateur et comprendre l'environnement pour pouvoir aussi en parler aux candidats. Comment vous voulez que j'explique à un futur candidat ce qu'il va faire et comment est l'environnement de l'entreprise si je ne le maîtrise pas? Amener ma touche technique et professionnelle, parce que le recrutement est un vrai métier. Quand vous avez un problème d'électricité, vous appelez un électricien. Et quand vous avez des problèmes de recrutement, vous appelez un recruteur. Le fait d'être externe, d'avoir un regard externe aussi, c'est assez important sur le RH, quoi. Moi, j'ai travaillé en mission locale, donc j'ai toujours collaboré avec le service public de l'emploi. La priorité du service public de l'emploi, c'est l'accompagnement des publics. Tout le travail qu'ils font en entreprise autour de la connaissance, la reconnaissance des métiers, moi, je trouve ça très bien. Je pars du principe que dans ces métiers-là, les partenariats, le réseau est très important. Les photos qui seront sur mon site internet viendront d'entreprises avec lesquelles je travaille. Pour moi, c'était important sur mon site internet de valoriser les métiers et les entreprises du territoire. Mais toujours pareil, question de crédibilité. À un moment donné, quand vous dites qu'il faut valoriser les entreprises, valoriser leurs métiers auprès des candidats, si moi-même je le fais pas sur mon site internet, ça a aucun sens. J'envisage les choses comme une collaboration, et une collaboration dans le temps. Le one-shot ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Si je veux prendre du temps, aller dans les entreprises, rencontrer les partenaires, quoi que ce soit, c'est pas pour que dans 3 mois, la relation elle s'arrête.
Avec le digital et le télétravail, il voit maintenant beaucoup plus de solutions que de contraintes. Le Périgord connaît une nouvelle attractivité, bien au-delà de ses atouts touristiques.
J'ai dans l'idée aussi de faire venir des candidats d'autres territoires. Je pense qu'aujourd'hui, on a plein d'atouts en Périgord qui font que des familles, des salariés peuvent très facilement trouver de l'emploi en Dordogne et avoir une qualité de vie incommensurable. Vous savez, on est toujours en train de dire que c'est mieux ailleurs, qu'on est un territoire rural, que c'est compliqué. Non, moi je le vois pas comme ça. Nulle part ailleurs vous trouverez aujourd'hui une qualité de vie, un niveau de vie comme le nôtre. Typiquement, moi j'ai été à Biarritz pendant un mois. Quand vous voyez le prix de l'immobilier à Biarritz, pour un budget de 300 000 euros, vous avez à peine un studio. Chez nous, vous avez une belle maison en bordure d'agglomération, vous avez un service public qui est cohérent, vous avez un service culturel, loisir qui est super sympa. Sur le plan sportif, on a des équipes, vous pouvez sortir au cinéma, ce genre de choses. Pourquoi on ne peut pas faire venir les gens aussi, nous? Le télétravail permet ce genre de choses. Pourquoi vous habiteriez pas en Dordogne et travailleriez en Gironde en même temps? Moi, je vois plus de solutions que de contraintes. On a des entreprises qui se développent, on a de très belles entreprises dans l'agroalimentaire, dans l'industriel, qui aujourd'hui cherchent des talents. Ben, faisons-les venir, quoi. Il n'y a aucun souci. On n'a pas à rougir aujourd'hui, je suis désolé, mais la Dordogne n'a pas à rougir des autres agglomérations. Nous, on n'a pas de soucis de circulation. Vous ne mettez pas 1h30 pour rentrer chez vous. Ben voilà, le dimanche, vous voulez aller vous balader, vous sortez de chez vous. On a des atouts qu'il faut mettre en avant. On n'a plus à rougir. Cubjac, on a 500 habitants. Le maire a fait tout ce qu'il a pu pour nous avoir un médecin. Il a pris un cabinet de recrutement, on a un médecin. Voilà, on a un pharmacien, on a 2 kinés, on a un dentiste. Trouvez-moi ça en plein centre-ville de Bordeaux, dans un rayon de même pas 1 km². Il y a des marchés sur le recrutement parce qu'il y a une pénurie globale hein, liée au recrutement. Après, il y a de la concurrence aussi sur le domaine et sur le territoire. Et j'ai surtout un plan de développement sur 5 ans. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je développe l'activité recrutement et ressources humaines, mais je prévois d'intégrer à l'entreprise des services, justement pour faciliter la relation de collaboration, ce genre de choses. Sur le plan digital et sur le plan service, il va y avoir des évolutions rapides de ce côté-là. Je suis dans l'idée, moi, d'avoir du monde autour de moi. J'aime avoir du monde. Alors là, pour moi, c'est quelque chose de très solitaire, mais aussi très important parce que je pense que la genèse de ce projet-là, c'est moi. Voilà. C'est mon application, mon travail qui fera que MMRH se développera
et pas autrement. Mais j'ai pas mal d'idées en tête, justement de ces 10 années d'expérience qui me font dire qu'il y a certaines choses à développer en termes de services qui peuvent justement permettre d'attirer et de fidéliser les salariés en entreprise et de décharger un peu les employeurs de cette partie-là pour qu'ils se focalisent sur leur cœur de métier. Moi, si j'ai créé aussi cette entreprise, c'est pour passer mon temps dans les entreprises. Je suis admiratif du savoir-faire des entreprises. Moi, j'ai découvert à innover avec l'industrie. Je suis tombé amoureux de l'industrie. Partir d'une matière première, finir par un produit fini et de voir le cheminement et la réflexion technique, je trouve ça fascinant. Fascinant. On a en Dordogne, en plus, on a vraiment des entreprises qui méritent qu'on les mette en lumière. Et moi, je veux travailler avec ces entreprises-là. Quand je rentre dans une entreprise, j'ai des étincelles dans toute des lumières qui s'allument un peu partout. Et ce qui fait que, ouais, j'ai des solutions à proposer. Et c'est ça qui me motive. Moi, il y a un mot que j'adore, c'est la proactivité. Je trouve ça génial comme mot, quoi. La prise d'initiative, anticiper, ce genre de choses, sur le plan RH, c'est très important.
Curiosité du monde de l'entreprise, respect des candidats, le credo de Mathieu.
Si j'ai les besoins de recrutement des entreprises et que j'ai pas de candidats à mettre en face, ça va être compliqué. C'est pareil, en 10 ans d'accompagnement de public, j'ai acquis certaines certitudes. Et la priorité, c'est de prendre la personne comme un candidat et pas un client. La personne postule, j'estime que la moindre des choses, c'est de lui donner une réponse, positive, négative. Et puis, vous rencontrez une personne à un instant T, peut-être qu'à un instant T plus 2, vous aurez quelque chose à lui proposer. Donc là aussi, je serai dans l'accompagnement, dans un premier temps, mais lié au recrutement. J'ai pas les compétences, par exemple, pour faire aujourd'hui du bilan de compétences. Je pense qu'il y a des personnes qui font ça très bien et qu'elles continuent. Par contre, moi, accompagner une personne dans sa recherche de l'entreprise et dans son envie de mobilité, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on a plein de salariés qui ont l'idée de partir, mais qui ne vont pas au bout de cette démarche parce qu'ils ne sont pas forcément accompagnés, qu'ils ne franchissent pas le pas. Mais en même temps, moi, j'ai pas dans l'idée de déloger des salariés d'une entreprise pour les mettre ailleurs, parce que c'est pas cohérent là aussi. Si moi, je passe mon temps à dire qu'il faut être attractif, intégrer les personnes, c'est pas pour aller les démarcher et les mettre dans une autre entreprise. Donc, il faut être cohérent aussi. Et puis, ma maman m'a toujours dit, et ça, je le dis souvent, qu'il faut pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Donc, de la bienveillance, de l'accompagnement, peut-être de l'accompagnement à vers de nouvelles pistes pour ces personnes-là, mais ça demande du temps, ça demande de les connaître. C'est pour ça que je pars du principe que la visio, par exemple, est très importante, la rencontre avec les gens pour les comprendre et les connaître. C'est autant facilitant pour dire à l'entreprise, voilà, je vais vous proposer telle candidature, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, que de me dire potentiellement si ça marche pas avec cette entreprise, je peux peut-être l'orienter vers une autre. Le bâtiment, l'aide à la personne, les métiers du médical. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, qui arrive à trouver exactement les profils qu'ils recherchent? L'attention est généralisée, entre guillemets. Oui, nous en Dordogne, on a des métiers plus en tension que d'autres. Ben justement, qu'est-ce qu'on fait au-delà de la rémunération pour pouvoir attirer ces personnes-là? Quel levier motivationnel on va trouver pour attirer ces personnes-là? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, un jeune va se former dans ce métier-là? Donc il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. Et je pense que quand on parle de recrutement, il faut qu'on parle aussi de formation et d'intégration. Quand vous n'avez pas de solution immédiate, pourquoi pas prendre un jeune dans votre entreprise, le former, quitte à créer vous-même votre propre formation parce que vous ne la trouvez pas sur le marché. Il y a cette problématique-là aussi. Je disais tout à l'heure, on a plein d'atouts au niveau de notre département. La partie formation sur certains métiers, elle est compliquée. Vous êtes obligé d'aller chercher la solution à Bordeaux, à Toulouse, à Paris. Moi, je pense qu'il y a peut-être une solution à créer des centres de formation en interne dans les entreprises pour avoir justement des personnes qui sont facilement intégrables et qui répondent à vos besoins dans les entreprises. Il y a des solutions à créer à chaque fois. Donc, il y a un travail peut-être à faire aussi autour de l'image. Moi, quand j'étais gamin, on m'a jamais fait visiter un CFA du bâtiment, par exemple. Il y a une connexion des fois qui se fait pas. Les entreprises ont certains a priori suivant certains profils et les candidats ont certains a priori en fonction des entreprises. Mais quand vous mettez les pieds dans une entreprise et que vous vous rendez compte de ce qui s'y passe, c'est plus du tout la même vision. Vous avez plus du tout la même vision. Et il y a un moment, il y a forcément un truc dans cette entreprise-là qui va faire que vous dites, ah putain, ça j'aimerais bien le faire. À un moment donné, il faut que le candidat, quand il voit votre offre d'emploi, il voit votre entreprise. 80% des candidats, la première chose qu'ils font,
Avant de postuler à une offre d'emploi, ils se renseignent sur l'entreprise. Et quand vous avez des sites internet mal renseignés ou pas très adaptés, ben déjà là, il y a un problème. Et sur ce problème-là du digital, notamment autour de la marque employeur, j'en parlais tout à l'heure, je veux pouvoir travailler avec eux là-dessus aussi. Il y en a qui présentent mal, mais il y en a qui valorisent pas bien aussi. C'est-à-dire qu'ils ont un savoir-faire, vu qu'ils en ont dedans, ils s'en rendent pas compte. Et vous, quand vous venez de l'extérieur, vous dites, mais c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Vous vous rendez compte ce que vous faites là? Ça, il faut le mettre en avant. Là. Voilà. Donc, des fois, c'est de la mise en avant, des fois, c'est de la présentation. Moi, je pense que, par exemple, une entreprise, quand elle recrute, elle doit pouvoir s'appuyer sur ses salariés pour mettre en avant les métiers. Un site internet aujourd'hui où vous avez une partie carrière, où vous n'avez pas de partie carrière alors que vous recrutez, c'est dommageable. Et quand vous avez une partie carrière qui ne met pas en avant les métiers, qu'on ne comprend pas exactement ce que l'on va faire dans l'entreprise, c'est dommageable. Moi, mon rôle, c'est justement de faire cette jonction-là, peut-être de mettre des mots derrière tout ça et un visage pour faire comprendre au candidat où il va mettre les pieds. L'offre d'emploi, vous faites un plan de communication aujourd'hui. Moi, je propose un plan de communication aux entreprises qui vont travailler avec moi, à savoir, suivant la cible, à quelle heure, sur quel type d'outils digitaux, comment on va diffuser, à quel moment, ça c'est important. Ce que vous proposez doit être la réalité. Ça, c'est une première chose. Il y a beaucoup de périodes d'essai qui s'arrêtent parce que le candidat, quand il arrive dans l'environnement de l'entreprise, soit il est mal intégré, soit il n'est pas intégré, soit il se rend compte qu'en fait, ce qu'on lui avait vendu, ben, c'est pas forcément aujourd'hui ce qu'il voit. Et il y a l'inverse. Vous avez des candidats qui se survendent et qui, une fois arrivé dans l'entreprise, l'employeur se rend compte qu'en fait, qu'il n'est pas compétent par rapport à ce qui était demandé. Dernièrement, je parlais à un candidat sur Bordeaux qui me disait « Je suis ingénieur informatique, je suis arrivé dans l'entreprise, ils n'avaient pas d'ordinateur pour moi. » Vous vous rendez compte? Il y a une tendance au changement d'emploi assez rapidement. C'est assez positif dans le sens où ça veut dire que vous faites rentrer aussi de nouvelles personnes et de nouvelle énergie, hein. Mais ça veut dire aussi que vous perdez parfois un savoir-être, un savoir-faire et qu'un investissement, et donc c'est compliqué. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu. Comme je vous disais tout à l'heure, il y en a que vous allez garder 4-5 ans. Voilà, il faut voir comment vous réussissez à les conserver. Et puis il y a des potentiels. Des fois, il faut laisser partir un salarié aussi. Parce que à vouloir trop le retenir, ben, vous en perdez l'essence, quoi. Ce que j'apprécie dans le recrutement, c'est apporter ma vision à moi, mais de m'appuyer aussi sur la technique de l'entreprise. Et là, généralement, ça trompe pas. Et oui, il y a des gens qui présentent très très bien, et à l'inverse, et c'est ceux-là qu'il faut accompagner, pour qui l'entretien d'embauche est un véritable, une souffrance. Moi, j'ai accompagné des jeunes pendant des années, qui avaient un savoir-faire, quelque chose de, mais qui étaient incapables de pouvoir le mettre en avant, parce qu'ils perdaient tous leurs moyens devant une entreprise, un employeur. Donc il y a cela aussi, et cela, il faut vraiment bien les accompagner. Et justement, quand vous créez une relation de confiance avec une entreprise, à un moment donné, vous dites, lui là, vous prenez un entretien, vous allez voir, ça va peut-être pas bien se passer, mais prenez-le. Et si l'entreprise vous connaît et sait comment vous fonctionnez, elle va le prendre, et elle va avoir ce potentiel-là derrière. Puis il y a des employeurs qui savent très mal faire des recrutements aussi. Hein. On dit souvent qu'aux candidats qu'il faut se préparer à l'entretien. Moi, je dis aux entreprises, préparez-vous à faire passer vos entretiens. Il y a quand même une méthodologie, il y a des questions qu'il faut poser et d'autres qu'il ne faut pas poser. Et donc là aussi, dans la stratégie RH de recrutement, je propose un accompagnement au recrutement, à l'entretien d'embauche, à la prise de décision. Je balaye tout le processus de recrutement, autant moi je le fais, autant je peux accompagner les entreprises à faire le leur. C'est en ça que je trouve que je me différencie aussi. C'est-à-dire qu'une entreprise peut être très forte dans la valorisation de son entreprise, mais ne pas avoir le temps de faire passer ses entretiens d'embauche. Et moi, je vais intervenir spécifiquement sur ce besoin-là. De poste, je passe 3-4 heures dans une entreprise. Je veux voir, je veux pouvoir, quand j'aurai des personnes en face de moi, leur dire, voilà, dans telle entreprise, il y a tel besoin, vous êtes amené à faire telle et telle action, ok, mais derrière, ça veut dire que ben, vous allez vous pencher, il y a du bruit, il y a de machin, il y a de ça, voilà. Moi, vous savez, quand j'étais conseiller mission locale, j'aimais passer du temps avec les salariés. J'ai passé du temps avec un livreur. J'ai passé une journée avec un livreur. Je peux vous promettre qu'à la fin de la journée, je savais ce que c'était le métier de livreur. C'est-à-dire que vous passez votre temps à sortir, descendre, monter. Donc il y a un aspect très physique. Organisation, vous mettez votre GPS suivant les adresses et tout ça. Relationnel, parce que vous avez des personnes plus ou moins agréables. Donc voilà, le métier de livreur, c'est pas juste livrer un colis. Il y a beaucoup de choses derrière. Et moi, j'envisage les postes de travail comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a une fonction, mais il y a tout un environnement autour et il faut que je puisse le maîtriser. Ah ben, quand ça fait 6 mois que vous cherchez à recruter et que vous perdez des chantiers, je peux vous promettre qu'à un moment donné, ça devient une nécessité. Vous investissez sur un outil, voilà. Quand un chauffeur poêleur a besoin d'un camion, il investit sur un camion. Voilà. Il faut mettre de l'essence, il faut mettre ce genre de choses. Moi, je ferais peut-être un peu l'essence du RH, quoi. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un coût, c'est un investissement. Faut le voir comme un investissement. Et c'est en ça où je vous disais aussi qu'il y a les patrons changent. Ils se rendent bien compte de ces choses-là, qui perdent de l'argent parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place toute leur stratégie. Eh bien, investissez dans les RH, investissez dans le recrutement, et ben, voilà, le moteur fonctionnera, quoi. J'ai travaillé avec beaucoup de municipalités, des structures d'aide médico-sociale, sur les questions du handicap, notamment. Donc je vois leur environnement, je connais leurs besoins. Là encore une fois, je pense qu'il y a des choses à faire sur la partie formation. Et c'était un métier qui n'était pas en tension et qui est en train de le devenir. Toute la partie aide-soignante, infirmière est devenue un peu pénurique. La crise du Covid a fait pas mal de mal à cette profession, hein, autant dans les efforts qu'on leur a demandés, autant que la remise en question, notamment avec l'obligation vaccinale, hein. Il y a quand même beaucoup d'infirmières qui ont démissionné et qui sont parties sur d'autres métiers parce que, par conviction, ça ne leur correspondait pas. On a vu des infirmières, notamment, aller dans le commerce, ce genre de choses. Donc, il y a des choses. C'est vraiment un secteur d'activité à retravailler, quoi. Enfin, à remobiliser. Vous avez des personnes passionnées, c'est un motif. Moi, je suis admiratif. Pendant 10 ans, j'ai accompagné des jeunes, notamment qui, dans l'accompagnement de handicap lourd, de les intégrer sur des métiers dans handicap lourd, j'étais fasciné de leur énergie, de leur détachement, entre guillemets, par rapport au handicap, de l'accompagnement qu'ils proposaient. Donc je pense qu'il y a des choses à revoir.
Intégration des différences, lutte contre les discriminations, inclusion, c'est aussi le combat de Mathieu.
Autant dans mon parcours de vie que mes convictions professionnelles, ça en fait partie. J'ai un papa qui a été éducateur technique spécialisé, qui travaillait avec des personnes handicapées sur l'accompagnement quotidien. Donc, très jeune, j'étais dans ces milieux-là. Et donc, oui. Et puis, c'est surtout que c'est quand même dommage de se priver de talent sur une question de handicap. Alors attention, on parle de handicap, mais aujourd'hui le principal handicap et la principale discrimination d'entreprise, c'est l'âge. Il y a des études, hein, là-dessus et qui montrent très clairement que l'âge est devenu la principale discrimination en entreprise. Vous avez des entreprises qui ont des besoins, vous avez des personnes seniors qui sont pleines de vie et qui demandent qu'une chose, c'est de travailler. Quand vous cherchez des solutions, justement, ben là, en voilà une solution. Le travail des seniors, l'inclusion, c'est des solutions. Toujours pareil, on dit que c'est des problèmes, moi je suis désolé, ce sont des solutions. Alors oui, ça nécessite des aménagements de poste, ça nécessite un certain accompagnement, mais je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont une valeur sociétale notamment, et que ben voilà, il y a une cohérence à trouver là-dedans. Mais il y a des entreprises qui le font déjà, mais pareil, qui ne le mettent pas en avant. Il y a des entreprises qui accueillent très régulièrement des stagiaires dans des CAT, ce genre de choses, pour les aider au choix professionnel. Vous avez des entreprises qui prennent aujourd'hui des autistes sur du commerce et qui ont un accompagnement plus avec une certaine sensibilité. Ça se fait. Et encore un sujet encore plus important pour moi, c'est la lutte contre la discrimination. J'ai une attirance pour ce domaine-là, personnel et professionnel. Voilà. Je trouve que, en plus, quand vous avez fait du droit social notamment, voilà, ça a permis de confirmer certaines convictions en moi. Donc je suis très attentif à ce genre de choses. Mais c'est cohérent aussi avec l'entreprise. Vous avez beaucoup de patrons qui s'engagent pour des causes, quelles qu'elles soient. Certaines c'est pour le handicap, certaines c'est pour l'environnement, d'autres c'est pour l'intégration de personnes en difficulté. Vous le voyez sur un réseau comme LinkedIn, tous les patrons, tous les chefs d'entreprise aujourd'hui sont dans une démarche comme ça. Donc voilà, on dit qu'on est en perte de valeur ou quoi que ce soit. Non, au contraire. Moi je trouve que justement, quitte à n'en avoir qu'une, autant la faire correctement. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a des entreprises, des candidats, qui ont des valeurs éthiques, qui ont des valeurs au niveau environnemental et qui mettent au même niveau que leur travail. C'est peut-être ça ce que ont du mal à comprendre certaines personnes. Moi, quand j'entends dire, oui, les gens n'ont pas la valeur travail. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont d'autres valeurs aujourd'hui et qu'ils veulent associer le travail à d'autres dimensions. Et ça, moi, je trouve que c'est très bon, très positif pour notre société.
Son expérience, son parcours lui permettent aussi de donner quelques conseils quant à la création d'entreprise.
C'est vraiment pas un long fleuve tranquille, hein, clairement. Je vous dis, vous avez des moments où de réflexion, pas de panique, mais de remise en question très forte parce que Parce que vous êtes tout seul, quoi, entre guillemets, avec ça, et vous voudriez que les choses avancent vite, qu'il y ait du monde autour de vous qui vous accompagne, et ça se passe pas nécessairement comme ça. Et puis moi, à la différence de certains créateurs, je suis arrivé avec un projet construit. C'était pas une idée, hein. J'avais mon projet construit. Donc j'avais pas nécessité d'avoir un accompagnement global. Moi, ce que j'avais besoin, c'était de trouver un comptable qui m'explique juridiquement où je devais me positionner et comptablement comment ça allait se passer. J'ai trouvé Yannick Four, qui m'accompagne très bien là-dessus. C'est super. J'avais besoin que ma banque m'accompagne aussi pour avoir des fonds pour mettre la voiture en marche. Et puis sur le plan de la communication, comme je vous disais, je voulais pas faire moi-même, je voulais avoir vraiment des outils performants. Donc il y a tout un travail de prospection, de se dire à un moment donné, ben, budgétairement, est-ce que je priorise telle ou telle chose, prendre des décisions, et puis vous rencontrez des gens qui vous donnent leur avis, et du coup ça vous remet en question. Donc à un moment donné, faut dire stop, voilà. Moi, mes convictions, elles sont là et je vais au bout du truc. Le conseil que je donnerais, c'est ouais, à un moment donné, d'être sûr de soi, d'y aller et de se dire bah, si ça plante, ça plante, mais au moins je serai allé au bout de mon idée. C'est 10 ans de réflexion, de mâchage, de pré-mâchage, de digestion. Voilà. Par contre, sur la manière de faire, sur notamment la partie commercialisation de mon activité, ce que je ne maîtrise pas du tout, là, oui, je prends beaucoup de conseils. Si moi, je ne transmets pas, comment vous ferez quoi? Enfin, à un moment donné. Voilà, la transmission est très importante. L'expérience de vie, la transmission, c'est super important. Là, la reconversion, on est sur des personnes qui sont sur du bilan de compétences, ce genre de choses, et ça, que je ne maîtrise pas. Un salarié devrait faire tous les 5 ans, 7 ans, un bilan de compétences. Faire un point sur sa vie pro, voir où il en est. Vous avez des entretiens. Conventionnel, hein, tous les 2 ans, tous les 3 ans, bilan dans votre entreprise. Mais est-ce que vous vous exprimez vraiment quand vous êtes en face de votre employeur? Est-ce que vous lui dites vraiment ce que vous pensez au bon de vous-même? Est-ce que vous souhaitez? Je ne suis pas sûr. Là, justement, vous retrouvez en face de personnes dont c'est le métier, qui vous accompagnent, qui vous rassurent, qui vous disent les choses. Et je trouve que c'est très important et très intéressant. Donc oui, reconversion, mais accompagnée. Il y a beaucoup de monde, même vous, dans votre entourage, vous devez en avoir, qui vous disent, ouais, j'en ai marre de mon boulot, je veux changer, mais qui ne le font pas. Parce que ben, peur de l'inconnu, voilà. Une reconversion, un changement, ça s'accompagne. Voilà. Mais je ne dirai jamais, moi personnellement, à un salarié, je te sors de telle entreprise pour te mettre en une autre. Par contre, une personne qui me dit, j'ai fait un bilan de compétences, je sais où je veux aller, là, ok, il n'y a pas de souci, ouais, moi je vous accompagne. Derrière, il y a des enjeux financiers, hein, une personne qui perd son emploi, il y a des enjeux familiaux, ça peut être l'occasion, enfin, vous savez, un divorce, c'est aussi dû parfois à la vie pro, hein, voilà, des étapes de vie, vous voulez faire un enfant, ce genre de choses, tout ça doit être pris en considération à un moment donné, et les reconversions, voilà, sur un coup de tête, il y en a de très peu, parce que, ou alors, bah, si, ceux qui font un burn-out, qui à un moment donné disent stop, et là, c'est trop tard. Là, c'est trop tard, vous les récupérez. Très loin et reprise de confiance, imaginer un avenir, ça c'est pareil, c'est un métier. Moi je dirais qu'il y a des salariés à burn-out, la suractivité, la sous-motivation, c'est des facteurs, des déclencheurs. Hein. Vous avez des personnes qui s'investissent, mais vous le voyez, trop, et à un moment donné, qui n'arrivent plus à faire la part des choses, et à un moment donné, ben, le corps il rompt. Hein, voilà. Donc c'est plus une question de mental et de corps. Vous avez des métiers très, très physiques où, à un moment donné, si vous ne privilégiez pas votre santé, vous êtes amené à, ben ouais, pas forcément avoir un burn-out, mais être inapte. Voilà, on parlait d'infirmière tout à l'heure, les gestes et postures, c'est pas qu'une lubie, quoi, hein. Quand vous devez soulever une personne de 150 kilos tous les jours, si vous le faites mal, ben c'est pas un burn-out que vous allez avoir, c'est une hernie discale, quoi. Oui, il y a des entreprises où la pression. Il y a des métiers à pression très forte, mais si la personne est consciente de tout ça dès le départ, déjà j'ai envie de dire, il y a un contrat moral qui se crée. La personne se dit, moi je vais rester 1 an ou 2 et puis je vais partir, je vais changer. Il y a des entreprises qui savent pertinemment qu'il y a des postes dans leur entreprise qui sont ultra tension, quoi, et qui ont cette logique, cette intelligence-là, c'est-à-dire à un moment donné, là tu es au bout, on va te déplacer interne. On parlait de mobilité. La mobilité interne, elle est autant verticale qu'horizontale. Vous pouvez faire progresser les gens en leur proposant des évolutions de carrière, mais vous pouvez aussi leur proposer de transférer leur métier sur un autre service qu'il y a dans l'entreprise. Vous pouvez très bien être, je sais pas moi, à un moment donné, on parle de bâtiment, être constamment sur les toits et avoir une hernie discale, et basculer sur un poste de commercial ou de chargé clientèle. C'est pas interdit. C'est des stratégies à avoir en fonction de l'entreprise et des salariés que vous avez. Et si vous ne maîtrisez pas l'environnement global, vous ne pouvez pas proposer ces solutions. Il y a une chose, alors on me dit, oui, le recrutement, il a été mal fait, la personne n'est pas restée. Oui, mais il y a une donnée qu'on ne peut pas maîtriser, c'est l'environnement personnel du salarié. Un salarié, à un moment donné, vous voyez qu'il baisse en activité, en investissement, il arrive en retard. Si vous ne l'interrogez pas sur sa vie perso, à un moment donné, ça pose un problème. Et c'est là, tout le souci du management et de l'accompagnement, ce que je vous disais. Mais vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'être triste parce qu'il a perdu un parent, un proche, et d'être moins performant dans son travail, et de se dire à un moment donné, lui, bon ben voilà, j'en arrive à un moment de ma vie, j'ai envie de changer. Ça, vous ne pouvez pas. Et au contraire, il faut l'accompagner.